Je vais commencer par les présentations.
Oui, allez-y.
Donc, ce sont à mes côtés les six têtes de liste, six têtes de liste du RDA départemental. Donc, je commence par ma gauche, Éric Belay, qui est ouvrier dans le Cher. Marie-Josée Aubert, qui vient d'Eure-et-Loire, Chartres, et qui est enseignante, professeure en lycée professionnel. Claude Tretka, qui est technicien à Orléans, vous connaissez. Et puis Claude Lamy, qui vient du Loir-et-Cher, qui est postier retraité. Véronique Gélineau, qui est soignante et qui vient de l'Indre. Et Jean-Jacques Prodhomme, qui nous vient d'Indre-et-Loire, et qui est électromécanicien.
Voilà. Ancien conseiller régional.
Ancien conseiller régional.
De 98 à 2004.
Il n'y a pas une semaine sans que les représentants du patronat, des banquiers, des industriels, des financiers, ne s'expriment et défendent d'une manière ou d'une autre les intérêts de la bourgeoisie. Pas une semaine non plus sans attaque contre les travailleurs qui sont annoncés. Les dernières en date concernent les complémentaires retraites du privé, concerne l'attaque en cours sur le code du travail. Et les prises de position du côté de la bourgeoisie, elles se font par des représentants, les représentants de tous les partis politiques. Et l'affaire d'Air France, toute fraîche, là, on a vu qu'à l'annonce des licenciements, les travailleurs d'Air France se sont mis légitimement en colère. Et aussitôt, on a vu tous les dirigeants politiques du Front National au Parti Socialiste et à la droite, s'en prendre aux travailleurs, les traiter de voyous. Et là, donc...
Parti Socialiste, droite, vous m'avez dit.
Et Front National. Hein, donc ils ont été tous unanimes contre les travailleurs en lutte, contre les travailleurs qui se défendent, parce que ce n'est pas le premier plan de licenciement, c'est le énième qu'ils subissent, avec tout le chantage qui va avec, et la division et l'opposition des pilotes aux autres catégories de travailleurs d'Air France. Donc, dans ce climat, justement, on voit qu'ils sont tous finalement dans le camp de la bourgeoisie, y compris le Front National qui veut apparaître comme un parti anti-système, qui a une démagogie sociale, ils laissent entendre qu'ils seraient du côté des travailleurs et des pauvres. Eh bien, on voit que les travailleurs, le Front National les aime soumis, et quand ils se révoltent, ils choisissent leur camp, c'est le camp du patronat, la classe sociale à laquelle ils sont complètement dévoués. Donc là, le vrai visage du Front National se révèle. Eh bien, nous avons la volonté dans cette campagne de faire en sorte que le camp des travailleurs s'exprime. Et que ce ne soit pas uniquement les porte-parole de la bourgeoisie, quelle que soit leur apparence, qui monopolisent la parole. Et ça sera l'occasion, justement, pour tous ceux qui subissent la précarité, les bas salaires, les licenciements, d'exprimer leur écœurement et leur révolte. Leur révolte par rapport à tous ces coups qui ne cessent de tomber. Et on n'en restera pas au stade de la révolte, puisqu'on demandera aussi aux travailleurs de se prononcer pour un programme qui défende leurs intérêts, leurs objectifs vitaux.
À quel moment
Eh bien, au moment du vote. Voter pour lutte ouvrière, pour les listes de lutte ouvrière, ça sera à la fois l'occasion d'exprimer son mécontentement et son écœurement et sa révolte contre des dirigeants politiques qui ne leur demandent que des sacrifices. Et ça sera aussi l'occasion de s'exprimer sur un programme de lutte. Je prends le problème numéro un auquel on est confronté aujourd'hui, qui s'agit du chômage, bien sûr. Tous les dirigeants politiques n'ont qu'une seule solution à la bouche. Il faut aider les entreprises, aider le patronat pour créer des emplois. Donc les caisses, l'argent public, les caisses de l'État sont littéralement pillées et on les arrose de subventions de toutes sortes. La liste est longue. Ça va des exonérations de cotisations sociales, ça va de chèques qu'ils reçoivent directement, qu'ils sont en train de recevoir au titre du crédit impôt compétitivité. Ça va au lieu aussi le crédit impôt recherche, ça va aussi des intérêts que l'État verse aux banques actuellement, c'est quasiment une des premières dépenses publiques. Donc ce sont des dizaines et des dizaines de milliards qui aujourd'hui manquent cruellement dans les services publics, qui eux par contre, hein, et puis donc on est un certain nombre à travailler dans les services publics, ça manque, cet argent manque. On demande aux hôpitaux de faire des économies sur la santé. Ça c'est une première chose. On supprime des emplois à la Poste. La Poste qui au passage a quand même reçu 600 millions d'euros au titre du crédit impôt compétitivité. Si je me trompe, les postiers me corrigeront. Donc on constate quoi? C'est que si je prends l'exemple de la région, par exemple, de Fleury-les-Aubrais, je ne suis pas très loin, mais la majorité, enfin une forte proportion des travailleurs, des facteurs sont précaires. Il y a des suppressions de postes, les travailleurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Donc ce crédit impôt compétitivité qui devait servir à créer des emplois, ben, on n'en a pas vu la couleur, on n'a pas vu le million d'emplois promis, on ne l'a pas vu. Et non seulement on ne l'a pas vu, mais le chômage a augmenté. Et les patrons qui n'en ont jamais assez réclament davantage. Et assurent que si on leur redonne encore 30 milliards, ils vont créer un deuxième million d'emplois alors que le premier n'a jamais été créé. C'est quand même choquant. C'est choquant, mais quand on écoute les dirigeants politiques socialistes de la droite du Front National, ils sont pour les subventions aux entreprises, que ce soit au niveau national d'ailleurs ou au niveau régional. Donc nous, on pense que c'est pas ça la solution. La solution pour enrayer le fléau du chômage, il faut interdire les licenciements. Donc les travailleurs pourront se prononcer là-dessus. Interdire les licenciements et répartir le travail entre tous. Si baisse de travail il y a, baisse d'activité par exemple, eh bien on maintient l'emploi, parce qu'aujourd'hui un travailleur qui perd son emploi, il perd tout.
Mais vous croyez que c'est réalisable? C'est pas une douce utopie ça, de répartir, donc baisse d'activité, on répartit le travail par rapport à ceux qui restent? C'est pas... Bon, c'est, sur le papier c'est bien, c'est, on ne peut qu'adhérer à ça, mais est-ce que c'est réalisable?
Ça ne sera pas réalisable uniquement en s'exprimant avec un bulletin de vote pour ce programme. Ça sera réalisable en l'imposant par des luttes amples, massives. Vous savez, en 1935, la veille de juin 36, même, je dirais même au mois d'avril 1936, on aurait dit à des travailleurs, eh ben voilà, il faut partir en vacances, parce que quand même, on ne peut pas travailler toutes les semaines sans pouvoir se reposer, on devrait au moins avoir 15 jours ou un mois de congé payé, ça serait le minimum. Ben oui, c'était utopique. Voilà ce qu'on disait aux travailleurs qui revendiquaient ça. Eh bien, quand les travailleurs, par millions, se sont mis en grève et ont occupé leurs usines, eh bien, ce qui était utopique est devenu réalisable. Eh bien, c'est exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, la société, elle souffre pas parce qu'on a pas assez de travail, pas assez de richesses. Il n'y a pas d'un côté des millions de travailleurs, 6 millions de travailleurs qui sont sans travail parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Vous discutez avec tous ceux qui travaillent dans toutes les entreprises et services. La productivité du travail, elle a fait qu'augmenter. Hein. Les cadences n'ont fait qu'augmenter. Eh bien, nous, on pense qu'on pourrait alléger ces cadences et embaucher. Mais à ce moment-là, il ne faut plus que le profit, ça soit uniquement le but de l'économie. Il faudrait que le but de l'économie, ça soit justement satisfaire les besoins de la société, les besoins humains, tout simplement. Alors si, je dirais même que c'est du bon sens, alors si c'est être utopique, eh bien oui, on l'est d'une certaine manière. Mais tout ce qui est utopique, c'est tant qu'on ne s'est pas donné les moyens collectivement de l'imposer. Aujourd'hui, il y a une lutte de classe sociale qui est féroce et qui est menée par la classe qui domine et qui nous fait croire qu'aucun autre système n'est possible. Et elle impose sa dictature. Elle impose sa dictature. Aujourd'hui, c'est une dictature. Les travailleurs qui contribuent à l'ensemble de la création des richesses dans la société, on ne leur demande pas leur avis sur ce qui se passe, sur la marge de l'entreprise. Ils créent de la richesse, ils créent du profit, et ce profit, ils n'en voient pas la couleur. Ce profit, il est accaparé. C'est possible parce qu'aujourd'hui, les entreprises font énormément de bénéfices. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui sont publiés au CAC 40, où les 40 plus grandes entreprises ont réalisé plus de 30 milliards de bénéfices rien que les 6 derniers mois. Qu'est-ce qu'on aurait pu maintenir comme emploi avec? Qu'est-ce qu'on aurait pu augmenter les salaires? Des millions de travailleurs et les familles qui en dépendent auraient pu voir le jour différemment et ça permettrait de comment dire, cette peur du lendemain qui taraude toutes les familles ouvrières aujourd'hui, ben ça pourrait les libérer de ça. Aujourd'hui, la société, elle crève de ça, quand même, de ce chômage, qui décompose toute la société, parce que c'est pas simplement le fait d'avoir un emploi, c'est toute la société qui recule avec ça. Alors, il faudra, oui, pour l'imposer, un mouvement profond, un mouvement de révolte collective et organisée. Et aujourd'hui, la minorité, les électeurs qui se prononceront, les électeurs des classes populaires qui se prononceront pour ça, eh bien, ils maintiennent un drapeau qui est le drapeau de la lutte de classe. Ils se prononceront pour ça. Voilà, donc, et c'est vrai qu'au-delà de. Bon, alors, bien sûr, l'interdiction des licenciements, c'est une évidence, mais l'augmentation des salaires, des pensions de retraite, des allocations sur le cours de la vie, ben oui, quotidiennement, on discute avec nos collègues, avec des gens dans les quartiers populaires qui sont confrontés à ça. Hein, les hausses d'impôts, les hausses d'impôts qui ont touché les retraités de façon importante. Ça, c'est pas normal. Alors, ces mesures qu'on propose, l'indexation sur les salaires, l'augmentation des prix, ben, bien sûr, il faudrait que on puisse. Il faudrait que les travailleurs se mobilisent. Et s'ils sont mobilisés, il y a quelque chose sur lequel il faudra qu'ils veillent, c'est à pas croire ce qu'on leur dit sur parole. Bon, ça déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se méfient, mais en allant plus loin que ça, c'est-à-dire en exigeant l'ouverture des livres de compte, en exigeant de mettre son nez dans les comptes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi sur le secret des affaires, la loi sur le secret commercial, qui fait que un travailleur qui dénonce les mauvais coups de son patron, il peut être licencié, il peut être sanctionné, il peut même, au pire, aller en prison. Voilà. Et s'il y avait une possibilité de révéler librement ce qui se passe, eh ben on en saurait des choses. Donc il faudrait, oui, la levée du secret commercial et bancaire, ça, il faudrait l'imposer. L'imposer, parce qu'on nous dit que l'entreprise est en difficulté, d'accord, mais où sont les profits accumulés? Peut-être qu'en 2015, c'est vrai, mais en 2012, en 2013, en 2000, et puis pas simplement les profits accumulés, mais la fortune privée, avec tout cet argent accumulé, ça s'est transformé en quoi? En argent placé dans les paradis fiscaux, tout ça. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir un droit de regard sur tout ça. Donc ce sont toutes ces idées, ces objectifs qu'on veut populariser et qui seront à mettre en avant dans les luttes de demain. Voilà, c'est pas facile de se battre. Aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est la classe bourgeoise qui mène la lutte de classe. Mais la classe ouvrière, si elle se révolte dans son ensemble, si le monde du travail se révolte dans son ensemble, il faudra qu'il se batte sur des objectifs qui sont essentiels. Et c'est cela qu'on met en avant. Alors autant vous dire que effectivement, c'est pas le changement dans les conseils régionaux au mois de décembre qui sera décisif pour le sort des travailleurs, puisque le lendemain des élections, eh bien, les problèmes auxquels ils seront confrontés, eh bien, ils seront les mêmes. Hein. Ceux qui cherchent du boulot continueront à chercher du boulot, ceux qui. Parce que le jeu politique est fait de telle façon qu'il y a une alternance, hein, où les dés sont un peu joués d'avance. Hein. Les alliances se font, les partis qui au gouvernement alternent, eh bien, ils alternent. Alors là, donc voilà. Donc,
justement, puisqu'on parle d'alliance, pour vous, le mot d'ordre, c'est de rester totalement indépendant de A à Z, du début à la fin. Au sort du premier tour, il n'est pas question qu'il y ait la moindre alliance avec qui que ce soit.
Au sort du premier tour, ben, on verra ce qu'on fait. Mais de toute façon, nous, c'est sur ce programme-là qu'on veut se prononcer, que les travailleurs se prononcent.
Une des choses qu'on veut permettre aussi, c'est justement, on est les seuls à pouvoir permettre aux travailleurs de se placer dans leur camp, clairement. On est les seuls à permettre aux travailleurs de se placer dans leur camp et voter lutte ouvrière partout où les travailleurs voteront, il n'y aura pas d'ambiguïté sur ce vote, aucune ambiguïté. Et là-dessus, oui, on est les seuls à avoir un programme aussi clair, sans ambiguïté.
Donc nous, dans ce contexte-là, eh bien, on veut faire entendre le camp des travailleurs et qu'ils puissent exprimer leur révolte, leur écœurement face à la politique du gouvernement actuel, qui, comme unique solution au chômage, propose d'arroser de subventions les patrons, aider les entreprises. C'est son leitmotiv. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il n'a pas manqué de faire depuis qu'il est au pouvoir, puisque quand il est arrivé au pouvoir, c'était Laurence Parisot qui était représentante du MEDEF, et elle a fait fort que les 10 milliards que le gouvernement s'apprêtait à leur verser se transforment en 20 milliards. Donc elle les a obtenus. Crédit impôt pour compétitivité, pacte de responsabilité. Donc il n'y a pas une semaine sans que le patronat, lui, téléphone et puis dise « on veut ça, on veut le code du travail, c'est trop de contraintes. Les prud'hommes, si on attaque le prud'homme, eh ben voilà, on est obligé de payer des amendes, ça coûte trop cher, ça va nous couler, ça nous met en péril. Et puis si on peut licencier facilement, c'est sûr qu'on pourra embaucher, il n'y a pas de doute. Hein. Et puis si vous nous aidez à être compétitifs, on embauchera 1 million de personnes. Résultat, ils ont embauché 0 personne, puisqu'on est bien placé pour savoir qu'un certain nombre d'entreprises qui ont reçu de l'argent au titre du crédit impôt compétitivité ont empoché les chèques. Hein. Des fois on connaît le montant, des fois on le soupçonne, des fois on a une idée. Mais pour autant, dans les entreprises où les chèques sont tombés, eh bien la précarité a augmenté, on a des fois licencié les intérimaires, on a supprimé des postes, ceux qui partaient à la retraite n'ont pas été remplacés. Donc voilà le quotidien des travailleurs, des entreprises qu'on a aidées. Donc ça, on va le dénoncer. On va le dénoncer. Nous, on est pour l'arrêt des subventions au patronat. C'est pas la solution. Pour arrêter le chômage, il faut interdire les licenciements.
C'est le... pour le contrôle des fonds régionaux attribués à l'entreprise comme le fonds de gauche.
On est pour le contrôle des travailleurs. Parce que qui contrôle quoi? Il faut que ce soit les travailleurs qui puissent avoir leur mot à dire sur ce qui se passe. Alors, et pour que ce contrôle puisse être effectif, il faut la levée du secret commercial et bancaire, la levée du secret des affaires. Sans quoi, ça restera lettre morte. Je ne sais pas. Donc ça, c'est évident, le contrôle, mais oui, la levée du secret commercial et bancaire. Ça, c'est indispensable. Parce que sinon, aucun contrôle s'exercera. Ça sera des commissions triées sur le volet, qui vont aller contrôler qui, quoi. Il faut que le grand public, c'est quand même l'argent public, c'est l'argent public. Ben, le public, les travailleurs, les classes populaires doivent avoir leur mot à dire sur ce qu'on en fait.
Les conseillers régionaux sont normalement les représentants des citoyens, des électeurs.
Oui, ben, si les conseillers régionaux, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais dire que, justement, on est pour le contrôle, mais je crois qu'il y a un contrôle qui serait très efficace, c'est déjà d'arrêter carrément de subventionner à fond perdu toutes ces entreprises. Parce que moi, le souvenir que j'en ai, c'est quand même qu'il y a des choses qu'aucun contrôle ne peut empêcher. Enfin, vous vous rappelez que vos colonnes, c'était fait l'écho d'un certain nombre d'entreprises comme Modus Media, La Source ou des boîtes comme ça, qui avaient eu le quitus, ce qu'on appelle de la région, c'est-à-dire qu'on leur avait dit vous avez touché 1 million de francs pour créer 110 emplois, mais une fois qu'ils avaient le quitus, l'encre du quitus était à peine sèche. Qu'ils annonçaient, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais ils annonçaient 110 licenciements à la source, et enfin 110 suppressions d'emplois, 70 transferts dans une autre boîte du même groupe à Beaucouzet dans le Maine-et-Loire, hein, et 33 suppressions d'emplois, et qu'à l'époque, à Beaucouzet dans le Maine-et-Loire, ils touchaient à nouveau pour 110 créations d'emplois qui en fait étaient les transferts des emplois de la source, ils touchaient à nouveau le pactole du conseil régional du Maine-et-Loire, du Val-de-Loire, de ben, tout ça. Bon, là, il y a un exemple nous, dans l'Indre-et-Loire, c'est une entreprise qui s'appelle Safety Production, c'est une filiale de Sandvik, le numéro 1, la multinationale numéro 1 des outils de coupe, hein, qui a touché de l'argent, bon, ça a été une affaire initiée par le conseil régional, je crois, à partir de 2004, moi j'en ai entendu parler en partant, mais ça s'est fait en 2005, qui a touché d'argent pour créer ce qu'on appelle le CEROC, un centre de recherche sur les outils coupants et tout ça. Et aujourd'hui, bon, cette boîte a touché à l'époque 5,5 millions, je crois, du conseil régional, mais aussi de... Ça va jamais seul, ces trucs-là, de la communauté d'Aglo, de tout un tas de trucs, bref. Je rentre dans les détails, mais... Aujourd'hui, ils annoncent des licenciements, car la fermeture, car il y a deux usines, une c'est à Fondette près de Tours, ils annoncent 45, une fermeture d'une des deux entreprises, 45 licenciements. Hein. alors qu'ils ont touché de l'argent. Sans compter que, je veux dire, en 2004, la région subventionnait aussi le même type de montage pour un centre de recherche pour microélectronique, c'est une boîte qui fait de la recherche sur les cartes à puce, et qui touchait de l'argent à Tours alors qu'elle licenciait je ne sais plus dans quelle autre ville. Parce qu'il y a ça aussi. Donc ça, oui, on est pour le contrôle, enfin on est surtout pour le lever du secret bancaire, mais le contrôle le plus efficace, ça serait d'arrêter déjà tout ça, et de récupérer cet argent public pour créer des emplois où ils font cruellement défaut, dans les hôpitaux, dans les services publics, enfin...
Excuse. Et puis à propos des élus, bah oui, les élus, moi je suis bien d'accord, les élus, on peut leur faire confiance, mais justement, je pense aussi que les élus devraient être sous le contrôle de la population, puis irrévocables s'ils ne font pas leur boulot, parce que combien d'élus se sont fait élire sur des promesses, en commençant déjà par le président de la République, hein, qui a dit mon ennemi c'est la finance, ben bah voilà, il est élu. Et alors, le problème c'est qu'est-ce qu'ils font, puis s'ils ne font pas ce qu'il faut. Quel est le pouvoir de la population? Donc oui, faire confiance en ses élus, puis s'ils ne font pas le travail, eh ben, la révocabilité, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein.
Très bien. Alors, vous espérez avoir des élus?
Pour avoir des élus, pour se maintenir au deuxième tour, il faut avoir plus de 10%. Donc si on fait plus de 10%, on se maintiendra. Bon, pour l'instant, on fait notre campagne, on la commence, on verra.
Ok, je ne vous demande pas ce que vous ferez au deuxième tour, parce que vous allez me dire,
c'est pas à l'heure du jour.
C'est trop de campagne.
Non, ça ne change pas des problèmes régionaux, vous allez en parler ou...
Les problèmes régionaux.
Au national.
Ben oui, parce que les problèmes, enfin, nous on n'a pas un problème pour la région, on a un problème pour les travailleurs de la région et de toutes les régions. Donc, si on était au conseil régional, bien évidemment, si on était élu, comme l'a été Jean-Jacques précédemment, tout ce qui irait dans le sens des classes populaires, des travailleurs concernant la santé, les hôpitaux, qui serait favorable, eh ben on voterait pour. Mais par contre, ben tout ce qui concerne les subventions aux entreprises, tout ce qui nous paraîtrait louche et comme du domaine du pillage des caisses publiques, eh ben on s'opposerait. Hein, parce qu'en vérité, ceux qui sont aptes à diriger les conseils régionaux aujourd'hui, les partis qui alternent, c'est l'exécutif qui compte. Ben, ils s'engagent, c'est ce qu'ils vont faire. Hein, c'est ce qu'ils vont faire. Donc de ce point de vue-là, c'est guère différent de la politique nationale. Et de toute manière, ils sont aussi dépendants des dotations qui leur sont allouées par l'État. Donc c'est bien ça. C'est quand même la politique nationale qui est la pierre angulaire aujourd'hui de tout. Et en réalité, au soir du premier ou du deuxième tour, vous ferez un bilan politique de ce qui se passera, un bilan national et politique.
Si on vous propose d'intégrer une liste de la gauche, vous ne le direz pas?
Non.
Donc, vous le dites d'ores et déjà maintenant.
Notre politique, c'est de dénoncer cette politique de la gauche, justement, qui...
Même si ça faisait la balance au moment du second tour.
Pour permettre à ceux qui sont déjà au pouvoir, parce que quand même, je veux dire, les conseillers régionaux, ils sont quand même gérés déjà dans toutes les régions de France par le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, il avait la majorité à l'Assemblée, la majorité au gouvernement, la majorité dans les conseillers régionaux. Qu'est-ce qu'il en a fait pour les travailleurs? Non, on ne va pas accorder notre crédit, hein, qui est ce qu'il est, à une politique anti-ouvrière. On la dénonce, cette politique ouvrière, on la combat. Donc il n'y a aucune raison de faire d'alliance.
Même s'il y avait un danger...
S'il y a un danger Front National aujourd'hui, c'est à cause du Parti Socialiste et de la politique qu'il mène, parce qu'il a semé des illusions et on va de désillusion en désillusion. Donc oui, cette politique pro-patronale qu'il mène, voilà ce qui nourrit le Front National.
Vous avez la même réflexion que la droite, là. C'est à cause du PS, il y a le Front National.
Oh, je crois pas que j'ai la même réflexion de la droite, non, je pense pas, non. Parce que la droite, elle est prête à s'allier avec le Front National, vous savez. Ça, je pense que la droite... Le Parti Socialiste n'est pas un rempart contre le Front National, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il veut nous faire croire, et il veut nous exercer ce chantage, et qu'on marche tous derrière lui. Non. Mais la droite, quand on nous présente Estrosi comme rempart du Front National en région PACA, ça nous fait sourire.
Justement, en plus, ce qu'on a pu voir là, à travers... ce qui s'est passé à Air France, où les travailleurs sont mis en colère lorsque on leur a annoncé les plans de licenciement, c'est que du PS en passant par la droite et OFM, ils ont tous eu le même discours anti-ouvrier. Et les seuls qui ont un autre discours aujourd'hui, les seuls qui proposent une politique pour défendre le camp des travailleurs, eh ben c'est nous. Et c'est une autre politique qui fait que les travailleurs proposent à travers ces élections qui s'emparent d'idées comme l'interdiction des licenciements. Parce que par exemple, moi je travaille à Michelin, hein, les licenciements à jouer les tours, Michelin, c'est pas parce qu'il fait pas de bénéfices. Depuis 5 ans, il fait plus d'un milliard de bénéfices tous les ans, tous les ans, tous les ans. Ben, d'un côté, il a licencié 700 travailleurs à jouer les tours, et de l'autre côté, les travailleurs dans les autres usines, eh ben, ils crèvent de l'augmentation de la productivité. Moi, je travaille à l'usine de Saint-Doulchard, à côté de Bourges. Il y a une explosion des accidents de travail du fait de l'augmentation de la productivité. Il y a une explosion des maladies professionnelles. Alors oui, tout ça, dans cette campagne, on le dénoncera, et en expliquant que le seul moyen aux travailleurs de se défendre dans leurs entreprises face aux attaques du patronat et du gouvernement, eh ben, c'est de reprendre à leur compte un certain nombre de propositions qu'on fait, comme l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, le partage du travail entre tous.
Pourquoi vous êtes derrière le Front National ? Enfin, derrière. Bon résultat.
Vous voulez comprendre ?
Les ouvriers votent plus pour le FN.
Je pense que les...
C'est un constat, c'est pas...
Bien oui, parce que le Front National, lui, s'appuie sur la résignation. La résignation et l'absence de conscience. Oui, voilà. Donc il sort sur un courant réactionnaire sur lequel il contribue, mais qui existe indépendamment de lui en réalité. Donc voilà le résultat du Front National. Et puis surtout, le Front National, il est comme le Parti Socialiste et comme la droite, hein. Il nourrit l'illusion qu'en votant pour lui, les choses vont changer. Et c'est ça la grosse différence avec nous. Nous, on ne dit pas aux travailleurs qu'il y a un sauveur, il n'y a pas de sauveur. On dit aux travailleurs, les choses changeront, notre sort changera, on en finira justement avec les bas salaires, les pensions de misère, et avec les sacrifices, le jour où on va se révolter de façon consciente et collective sur des objectifs qui sont les nôtres. Ceux qu'on vient d'énoncer sur les licenciements, le chômage, etc. Eh bien ça, c'est un discours de lutte, c'est un discours de combatif, c'est un discours de conscience qui aujourd'hui, certes, est à contre-courant par rapport à la démoralisation qui règne. Oui, Marine Le Pen et le Front National sortent sur une certaine démoralisation. Mais si les travailleurs reprennent confiance en eux, s'ils retrouvent le chemin des luttes, et s'ils se battent sur ces objectifs, ben, je pense que Marine Le Pen elle sera loin derrière.
Et surtout, ce qu'on constate, c'est quand il y a des luttes, même le peu de luttes ou le peu de colère qu'il y a, mais qui existe quand même, les prises de position du Front National, ils sont ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, et voilà.
Est-ce que les gens s'en rendent compte ?
Nous, justement, on combat les préjugés, mais ce que je constate, c'est que ceux qui nous demandent de s'aligner derrière eux pour combattre les préjugés du Front National, quand on les écoute, ils reprennent les idées du Front National. Hein, ils les véhiculent, ils permettent, hein, je parle du discours xénophobe, hein, je parle d'idées nationalistes. Donc moi je ne m'aligne pas derrière ces gens-là. Donc voilà, le Front National profite aussi de ça aujourd'hui. Dans les conseils régionaux, la plupart des partis qui siègent actuellement, eh bien oui, ils vont procéder aussi aux subventions des entreprises. Donc ça c'est quelque chose auquel on est contre, hein, que ce soit au niveau d'État ou au niveau de... Ils se situent tous, bien sûr, avec des nuances. Ils se situent tous sur le terrain de cette société, c'est-à-dire la société capitaliste, telle qu'elle est, ils l'acceptent, et il faut la gérer. Mais non, on l'accepte pas, cette société. On pense que vraiment, il faut renverser le capitalisme. Et ça, c'est la crise dans laquelle on est actuellement, la crise qui s'approfondit, les guerres qui s'étendent un peu partout sous le poids des interventions des grandes puissances, hein, qui ont leur responsabilité dans le chaos qui est semé au Moyen-Orient et en Afrique, toute cette barbarie qui s'étend, bah, prouve que vraiment, franchement, cette société, au-delà des élections, elle se décompose, hein, elle est en faillite. Et se pose vraiment le problème de savoir dans quelle société on va vivre. Et les travailleurs en luttant, ils ont la force... par leur nom, par la place qu'ils occupent dans l'économie, ils ont la force de changer cette société. Pas simplement de lutter pour améliorer leurs conditions de vie, ils auront la possibilité de jeter les bases d'une société où on organise les choses en fonction de l'humanité, des besoins de l'humanité, tout simplement.
Mais ce discours-là, il faut arrêter le capitalisme, etc. Le fond de gauche, renverser le fond de gauche le dit aussi, même si j'ai surpris l'autre fois quelques dissensions entre les uns et les autres, mais j'en reviens à mon... vous dites, enfin, pour certaines choses, vous dites, vous donnez le même discours, quand même.
Il y a des choses sur lesquelles on peut se rejoindre, ça c'est indéniable, mais par contre, il y a quand même une grosse différence entre le front de gauche et puis même, là actuellement, en particulier le Parti communiste se démarque du gouvernement, mais par contre, il laisse entendre que les dirigeants socialistes, qui sont au pouvoir, les ministres, etc., il laisse entendre qu'on peut infléchir la politique qui est menée par ces dirigeants-là. Eh bien, nous, on ne pense pas. Et on pense que laisser croire ça, c'est semer des illusions. On pense que Hollande, Valls, Macron, tous ces gens-là mènent une politique consciente, délibérée. Ils ne changeront pas de politique. Et d'ailleurs, ils ne font que le dire. J'ai lu Valls dans Le Monde de ce week-end, j'ai lu sa page, là. Il trace un cap, et je ne crois pas qu'il va infléchir de politique. Donc, voilà la grosse différence. C'est que nous, on ne sème pas cette illusion-là. Et on pense que le changement, ça sera la force collective des travailleurs. Voilà. Alors, s'ils dénoncent des méfaits du capitalisme, eh bien, tant mieux. Ça, c'est une chose. Et ça fait... Vous voyez la différence, là ? Alors.